Bonjour à tous et bienvenue pour notre décryptage d'aujourd'hui. On va s'attaquer à un sujet qui donne littéralement le vertige.
Salut Evelyne. Ouais, c'est vraiment le cas de le dire.
Ouais, parce que là, on parle d'une innovation qui prétend ni plus ni moins bouleverser une règle absolue de la physique, une règle qui est en place depuis quasiment 2 siècles.
C'est ça. On touche vraiment aux fondations de ce qu'on enseigne dans toutes les écoles d'ingénieurs.
Et je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour disséquer tout ça, parce que pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que depuis 193 ans, absolument chaque moteur électrique sur Terre, du train à grande vitesse jusqu'au simple ventilateur de votre ordinateur.
Ouais, et même les plus petits.
Exactement. Eh bien, ils souffrent tous d'un défaut fatal, un défaut invisible. En fait, ils s'auto-freinent en permanence. Et là, un chercheur indépendant travaillant en Vendée affirme avoir trouvé le moyen de couper ce frein, littéralement en débranchant l'électromagnétisme classique.
Rien que ça, c'est une affirmation qui, évidemment, fait bondir n'importe quel physicien au premier abord.
Grave. Et c'est pour ça que notre mission aujourd'hui, c'est d'être le plus objectif possible. On s'appuie sur 3 documents vraiment fascinants pour comprendre l'architecture de ce fameux moteur qu'ils appellent Infinix.
Oui, on a un panel de sources très intéressant.
Voilà, on a un guide de vulgarisation super bien fait qui s'appelle Infinix pour les nuls. On a aussi le compte-rendu d'une conférence publique qui s'est tenue très récemment, le 18 juillet 2026, à Faraday Labs.
En Vendée donc.
C'est ça. Et enfin, on a un résumé d'une publication scientifique issue du projet Atlas, rédigé par l'inventeur lui-même, Christophe Tétard.
Ce qui est génial avec ces sources, c'est qu'on a tout le spectre. On passe vraiment de la grosse équation différentielle bien complexe dans le document Atlas à quelque chose de très visuel pour le grand public.
Et des mesures concrètes aussi, non ?
Exactement, les mesures empiriques de la démonstration de juillet. Tout converge vers cette fameuse architecture Infinix.
Bon, l'objectif, c'est de rendre tout ça compréhensible sans jargon inutile, tout en gardant un esprit extrêmement critique. Parce que des annonces comme ça, on en a déjà vu, donc le scepticisme, c'est obligatoire.
Complètement obligatoire, oui. Surtout quand on touche au fameux dogme de 1831.
Alors justement, avant de comprendre comment cette invention casse les règles, il faut absolument qu'on explique la règle elle-même.
Bien sûr. Alors, posons les bases. Le fonctionnement d'un moteur électrique, c'est simple. On a un courant électrique qui crée un champ magnétique. Ce champ pousse des aimants et hop, le rotor tourne.
Jusque-là, c'est le béaba.
Voilà. Le vrai problème, c'est une fois que ça tourne. Depuis les découvertes de Michael Faraday en 1831 et ensuite la loi de Lenz en 1834, on sait qu'un moteur électrique en mouvement se transforme inévitablement en dynamo.
C'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice, c'est ça ?
C'est exactement ça, la fameuse back UMF en anglais. En fait, le simple fait que les aimants bougent super vite à côté des bobines de cuivre induit un nouveau courant. Et la nature étant ce qu'elle est, ce courant induit va circuler dans le sens inverse.
Ah ouais, donc il s'oppose à l'alimentation.
Toujours sitôt. Plus le moteur tourne vite, plus ce contre-courant est fort, et plus ça crée un champ magnétique qui repousse la rotation. Mais attention, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est la loi de conservation de l'énergie.
C'est la nature qui réclame son dû, en gros.
Voilà, c'est une conséquence directe des lois de la thermodynamique.
Alors, pour illustrer ça, le guide Infinix pour les nuls utilise une analogie que je trouve géniale. Il faut s'imaginer quelqu'un sur un vélo. Au début, on pédale, le démarrage est facile. Mais c'est comme si quelqu'un attachait une corde à l'arrière du vélo.
Et plus on va vite,
plus la personne tire fort sur la corde. Pour maintenir sa vitesse de croisière, le cycliste doit fournir une énergie monumentale juste pour contrer la tension de cette corde.
C'est une métaphore parfaite. L'univers applique une taxe énergétique. Vraiment, une part énorme de l'électricité qu'on injecte à haute vitesse ne sert plus du tout à accélérer. Elle sert juste à compenser la résistance que le moteur lui-même est en train de générer.
C'est dingue quand on y pense.
Oui, c'est un plafond de verre technologique qu'on croyait totalement infranchissable. Jusqu'à cette fameuse méthode Infinix, bien sûr.
Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le projet Atlas propose une solution qui repose, d'après ce que j'ai compris, sur un illusionnisme magnétique.
On peut appeler ça comme ça, oui. Puisque le problème, c'est la réaction naturelle des champs magnétiques, eh bien la solution de Christophe Tétard, c'est de manipuler la présence même de ce champ.
Comment il fait ça, techniquement, hein ?
La première étape, c'est d'utiliser des aimants permanents très puissants, du néodyme.
Le document parle de grade N35 à N52, je crois.
Exactement. C'est ce qui se fait de plus costaud. La méthode consiste en enrouler une bobine de cuivre autour de cet aimant et d'y injecter un courant extrêmement précis.
Mais attendez, c'est pas juste faire un électroaimant classique, ça ?
Non, et c'est là la nuance. On injecte le courant de manière à créer un phénomène de superposition. Le champ de la bobine vient annuler très exactement le champ naturel de l'aimant.
D'accord.
De l'extérieur, l'aimant devient indétectable. C'est comme si c'était un simple bout de bois.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant ça, on pourrait se dire, bon, bah, l'aimant est fifu, il est désamanté. Mais pas du tout.
Ah non, sa structure interne reste parfaitement intacte.
Moi, ça me fait penser à l'analogie des vagues. Imaginez deux grosses vagues de la même taille qui se rencontrent de front. À l'endroit précis où elles se percutent, la surface de l'eau devient toute plate.
L'eau n'a pas disparu, l'énergie est toujours là, mais les forces s'équilibrent.
C'est exactement ça. L'effet s'annule localement, mais dès que le vent tombe, ou dans notre cas, dès qu'on coupe le courant, la vague de l'aimant permanent repart de plus belle.
C'est une super image. Mais il faut bien comprendre que cette annulation, cette superposition, ce n'est que la moitié de la solution magique d'Infinikes.
Ah bon, ça ne suffit pas pour supprimer le frein ?
Ben non, parce que si on s'arrête là, le circuit électrique de la bobine, lui, il est toujours là. Il est fermé. Donc, quand le rotor m'a passé à toute vitesse devant cette boucle de cuivre...
Même si elle est neutre magnétiquement à ce moment-là.
Tu es même neutre, le mouvement physique... devant un circuit de cuivre fermé, va forcer les électrons à bouger, l'effet dynamo va se réveiller, le courant induit va se remettre à circuler, et bam !
Le frein revient.
Le frein revient en force. La corde tire sur le vélo.
D'accord. Donc il faut absolument une étape supplémentaire pour empêcher ça.
Et c'est là qu'on arrive au tour de magie mécanique.
Le mot est bien choisi.
Pour empêcher la force contre-électromotrice de se former, annuler le champ ne suffit pas. Il faut ouvrir le circuit, complètement.
Quand vous dites ouvrir le circuit, c'est-à-dire faire une vraie rupture physique.
Exactement. C'est la subtilité technique cruciale du projet Atlas. Si le circuit est ouvert, il n'y a plus de boucle. Et s'il n'y a plus de boucle, aucun courant ne peut circuler.
Et donc, pas de train.
C'est physiquement impossible que la bac IMF se forme.
C'est ouf. Enfin, c'est fou, pardon.
C'est la différence entre, disons, mettre une radio sur pause, le circuit est toujours fermé, le son peut revenir à tout moment.
Ouais.
Et carrément arracher la prise du mur, là le circuit est ouvert, il ne peut plus rien se passer du tout.
C'est une excellente comparaison. On débranche la réalité électrique pendant un instant.
Mais alors, ça pose un problème logique énorme. Enfin, c'est la question que tout le monde doit se poser.
Allez-y.
Si le courant électrique est totalement coupé, qu'est-ce qui pousse le moteur ? Qu'est-ce qui le fait tourner du coup ? Et c'est là qu'est le coup de génie absolu. C'est jubilatoire d'un point de vue ingénierie. Dès que le circuit s'ouvre, on l'a dit, le courant s'arrête.
Donc l'annulation s'arrête.
Voilà. Le champ naturel de l'aimant permanent en néodyme réapparaît instantanément. Or, à ce moment précis, face à lui sur le rotor, qu'est-ce qu'on a ? Un autre aimant permanent, mais positionné en mode répulsion.
Oh, d'accord. Donc pôle nord contre pôle nord.
C'est ça. Ce sont les aimants permanents qui créent le mouvement en se repoussant violemment, pas le courant.
Donc l'électricité ne sert pas de carburant ?
Non. Le courant ne sert que d'interrupteur, de chef d'orchestre. Il masque le champ quand l'aimant approche pour éviter la résistance, puis on coupe le courant, le champ naturel explose et repousse le rotor vers l'avant.
C'est une véritable symphonie. C'est brillant. Mais du coup, dans le système assemblé tel qu'il a été montré à Faraday Labs en juillet, ça ressemble à quoi en fonctionnement ?
La conférence décrit un système à quatre pôles. C'est un cycle ultra rapide. Les bobines annulent le champ, la résistance tombe à zéro, le rotor avance en roue libre.
Sans aucun freinage donc ?
Sans aucun freinage. Puis, paf, ouverture brutale du circuit. Les aimants se repoussent, ça propulse le rotor, et on referme le circuit pour préparer le passage au pôle suivant, en boucle.
D'accord, je visualise très bien. Mais il va falloir qu'on aborde l'éléphant dans la pièce.
Je m'en doutais, oui.
Parce qu'on parle d'un moteur qui tourne sans se freiner. Et ça, pour n'importe quel scientifique, ça allume direct le gros gyrophare rouge du mouvement perpétuel. Est-ce que cette technologie ne viole pas les lois de la thermodynamique ?
C'est une question très importante. Et le document d'Atlas y répond de manière très carrée. Affirmer que ce moteur ne se freine pas, ce n'est pas prétendre faire de la magie.
C'est-à-dire ?
La règle de Faraday de 1831, elle s'applique quand c'est le courant électrique qui crée la force motrice. Dans l'architecture Infinix, les rôles sont inversés. Le courant ne fait que moduler un état de l'aimant.
Donc on ne contourne pas la loi, on change juste le cadre de référence.
On s'y soustrait. L'énergie vient de l'interaction des aimants permanents, pas du courant électrique.
D'ailleurs, à propos d'énergie, il y a un détail hyper touchant dans les sources concernant le nom de l'architecture, Infinix. Ça vient du symbole de l'infini, bien sûr, mais c'est aussi pour Phénix.
Oui, l'inventeur revient de loin.
C'est ça, il sort tout juste d'un coma de plusieurs mois, et on sent que ce projet, c'est vraiment une renaissance pour lui. Mais je vais me faire l'avocate du diable.
Allez-y.
Avec une histoire aussi forte émotionnellement, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en objectivité ? Surtout que les notes de Faraday Labs mentionnent un truc hallucinant. Lors des tests, ils ont mesuré un petit surplus d'énergie. quelques dizaines de watts en plus à la sortie par rapport à ce qui est entré. Là, on flirte carrément avec le mythe de l'énergie libre, non ?
Il faut vraiment recadrer ça de manière objective. Christophe Tétard lui-même est extrêmement prudent là-dessus. Il sépare complètement les deux choses.
Il ne prétend pas avoir créé de l'énergie de nulle part, alors, hein ?
Absolument pas. Il dit clairement que l'origine de ce petit surplus de quelques watts n'est pas comprise et que ça nécessitera les études séparées par d'autres labos, ce qui est affirmé, documenté et prouvé par des oscilloscopes lors de la conférence.
C'est la suppression du frein interne.
C'est ça. Uniquement l'élimination de la BAC IMF. Faut pas tout mélanger.
D'accord, c'est une ligne de crête assez fine, mais c'est honnête de sa part de le préciser. Mais alors, si l'invention est si révolutionnaire, si les mesures prouvent que ça marche, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça à la une de revues scientifiques majeures comme Nature ou Science ?
C'est là qu'on aborde ce que Tétard appelle lui-même l'effet Mathieu.
L'effet Mathieu, c'est quoi exactement ?
En sociologie des sciences, c'est le fait que les grandes revues ont tendance à rejeter ou à ignorer les travaux de chercheurs indépendants. Et Tétard, ça fait 22 ans qu'il bosse là-dessus, sans affiliation académique formelle, sans grand laboratoire universitaire derrière lui.
Ah ouais, le syndrome du chercheur isolé dans son garage contre les grosses institutions.
Exactement. C'est très dur d'être pris au sérieux dans ce milieu quand on n'a pas la bonne étiquette, même si les données empiriques sont là.
C'est pour ça que tout a été publié en open source.
Oui. Face à ce mur académique, la décision a été de tout diffuser en accès libre. Un brevet a bien été déposé à l'INPI, en France, le 9 juillet 2026. Mais attention, ce brevet ne porte que sur les applications du système.
Pas sur le principe fondamental du moteur.
Non. Le principe reste public. Le but de ce brevet applicatif, c'est surtout d'éviter qu'un gros groupe industriel, genre un géant de l'automobile, ne s'approprie la technologie primaire pour la ranger dans un tiroir et la bloquer.
Waouh, c'est une démarche super altruiste.
Oui, et le magazine Nexus a d'ailleurs bien relayé cette philosophie. Le message principal de Tétard et de son équipe, c'est un appel à la réplication.
Parce que la vraie science, ça ne se fait pas sur des débats d'opinion sur Internet.
Voilà, ça se fait par la reproduction indépendante des expériences. Ils ont donné les plans, les références des aimants néodymes, le type de fil de cuivre, tout. Ils invitent les Fab Labs, les labos universitaires, à tester eux-mêmes la disparition de cette force contre-électromotrice.
C'est le test ultime, en fait. Si d'autres labos le reproduisent, il n'y aura plus de débat.
Exactement.
Eh bien, pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir, on parle donc d'un moteur qui réussit à neutraliser un frein vieux de 193 ans.
C'est un bon résumé.
Et il fait ça en utilisant le courant électrique non pas comme une force motrice de bourrin, mais vraiment comme un interrupteur, pour laisser les aimants permanents faire tout le travail physique de répulsion.
Et sans jamais que le circuit ne soit fermé quand le rotor passe.
C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi ça les concerne, si ce processus est validé à grande échelle par des labos indépendants, les conséquences sont juste gigantesques.
Ah bah c'est toute notre civilisation électrique qui est impactée.
Qu'il consomme aujourd'hui, on pourrait réduire drastiquement notre consommation énergétique globale.
C'est le rêve de la transition énergétique. Moins de gaspillage plutôt que de chercher à produire toujours plus.
Exactement. Bon, avant de clore cette exploration, il y a une dernière pensée un peu provocatrice que je voulais partager.
Ah, je vous écoute.
On l'a dit, Tétard reste très prudent sur le petit surplus d'énergie qu'ils ont mesuré avec leurs oscilloscopes. Il affirme avec raison qu'on ne produit pas d'énergie à partir de rien.
Tout à fait. La thermodynamique est sauve.
Mais imaginons juste un instant que les futurs laboratoires confirment irréfutablement ce surplus de quelques dizaines de watts. Puisque l'énergie n'est jamais créée, mais toujours empruntée quelque part, à quelle source fondamentale ces aimants permanents sont-ils en train de puiser ?
Au moment précis où le champ réapparaît. C'est une excellente question.
Oui.
Au moment même où le circuit s'ouvre. Est-ce que ces aimants puisent dans une source d'énergie encore invisible à nos instruments actuels ? Est-ce qu'on interagit de manière fugace avec l'énergie du vide quantique ?
C'est une hypothèse qui donne le vertige.
Totalement.
C'est une piste de réflexion fascinante. Si ça se trouve, on est à l'aube de devoir repenser entièrement notre compréhension de l'univers magnétique. On laisse ça à la réflexion de ceux qui nous écoutent.
Le rendez-vous est pris pour les prochains tests des labos.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir décrypté tout ça avec moi aujourd'hui. C'était passionnant.
Avec grand plaisir.
Et merci à tous d'avoir suivi ce plongeon au cœur d'Infinix. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt.